C'était donc Frédéric, c'est ça. Voilà, tu as installé ton diapo, tout va bien. À part que quoi? Tu vois plus rien?
Non.
Bon. On a un petit souci technique, si on peut, pour qu'on puisse démarrer, si vous pouvez venir voir. Ton écran a disparu.
L'écran a disparu, mais...
Bon, l'ordinateur est... Bon, bah sinon tu prends le micro baladeur et tu le fais du bas peut-être.
C'est pas grave, je vais le faire comme ça. Donc je suis médecin, je travaille dans un centre d'accueil toxicomane depuis 15 ans et on s'occupe de patients polyaddicts. Comme j'ai entendu que ça se disait maintenant, polyconsommateurs ou polydépendants, essentiellement des personnes qui sont dépendantes des opiacés, mais aussi de la cocaïne, des benzodiazépines, mais et aussi du tabac. Et on a fait le constat qu'on s'occupait de leurs addictions et on négligeait souvent la prise en charge de leur dépendance au tabac. Donc c'est ce qui nous a donné l'idée de faire une étude et encouragé par Gilbert Lagru, qui était mon professeur de néphrologie, qui était l'un des précurseurs de la tabacologie en France, on a décidé de faire une étude et d'identification du problème pour essayer d'aller plus loin en termes d'essais thérapeutiques. Donc voici le plan que je vais aborder. D'abord les définitions concernant les polyaddicts. Enfin, la place du tabac dans la polytoxicomanie et en particulier vis-à-vis des autres addictions, la complexité du sevrage tabagique chez le polydépendant et enfin dégager des recommandations pour l'aide au sevrage tabagique de ces personnes polydépendantes. Donc, en termes de définition, classiquement, les polytoxicomanies, polyconsommation sont synonymes. Ça renvoie une conduite toxicomaniaque associant de façon simultanée ou séquentielle la consommation de plusieurs substances psychoactives. Ces polyconsommations peuvent créer des synergies qui renforcent le risque d'ancrer certaines conduites sociales et de surdéterminer un centrage de l'existence sur l'usage de ces substances. Donc ça, pour ceux qui pratiquent dans des centres comme ça, ils savent ce dont je parle. Les parcours addictifs permettent de repérer des séquences de consommation, au début souvent festifs, parfois autothérapeutiques et finalement toxicomaniaques, avec une variété de produits et liés à des événements de la vie. On distingue des addictions successives ou des associations de conduites addictives, enfin des addictions alternées avec des consommations d'un produit, puis des addictions sans drogue, comme on l'a vu ce matin. Alors, un point important, c'est la comorbidité psychiatrique. Qu'est-ce qui pousse un sujet à consommer un ou plusieurs produits qui l'entraînent à persister ou l'empêche d'arrêter de le faire? On a vu des déterminants génétiques qui sont mis en évidence par les chercheurs. Il y a l'environnement également, il y a encore plein de recherches à faire là-dessus, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. On se rend compte que quand même l'addiction, ce n'est pas uniquement déterminé par la propriété biologique de l'objet, du produit ou de la situation, mais ça peut être considéré comme une logique de résolution d'un problème interne ou externe, mais souvent mal approprié. Donc, plus le trouble de la personnalité est sévère, plus les consommations sont importantes, ça c'est une constatation que nous avons tous fait, et les liens qui unissent les conduites addictives et les troubles mentaux restent complexes, et c'est pas aujourd'hui qu'on va développer ce point. Donc en termes de prévalence de la tabacomanie dans des centres qui prennent en charge des polytoxicomanes, on se rend compte dans le centre où je travaille à Montreuil, on a fait une étude avec un recrutement aléatoire, on a 95% de fumeurs parmi les patients qui prennent au moins deux drogues. Hein. Alors quand on regarde ce qui existe dans la littérature, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur. Aux États-Unis, ça va de 75 à 90%, en Angleterre, près de 93%. Voilà, là je vous ai mis des références bibliographiques. On se rend compte que sur notre série de 83 patients, ils ont commencé le tabac en moyenne à 15 ans, alors qu'ils ont commencé les opiacés vers 19 ans. Hein. En termes de durée de tabagie, ça fait 25 ans. En termes de dépendance, en utilisant le test de Fagerström, on a un test moyen, 5 sur 10, pour la médiane. Et quand on fait le test de Hong, qui analyse plutôt la perte de contrôle, c'est 6 sur 10. Voilà. Donc, dans les études qui ont été publiées, un des facteurs prédictifs de la polytoxicomanie, c'est une consommation de tabac à partir de 12 ans. Donc il y a vraiment une relation entre la précocité du début du tabac et le fait que les gens vont être polyaddicts. Ce n'est pas une relation de causalité, c'est juste un facteur prédictif. Alors la mortalité liée au tabac, donc vous êtes tous au courant que le tabac c'est mortel. Dans les études de cohorte publiées, 51% des patients d'une cohorte rétrospective sont morts d'une pathologie liée au tabac. Hein. Donc c'était des patients traités par méthadone. La mortalité liée au tabac par rapport à la population générale, elle est multipliée par deux hein, chez les patients qui sont traités par méthadone. Et enfin, elle est supérieure, la mortalité liée au tabac, à celle liée aux opiacés. C'est-à-dire qu'ils ne meurent pas des opiacés, que ce soit l'héroïne ou le traitement de substitution, mais ils vont mourir plutôt d'une conséquence du tabac. Ça, c'est notre étude publiée en 1993. Donc, la conclusion, la dépendance au tabac parmi les patients polyconsommateurs des XAPA est importante, elle est ancienne et elle est mortelle. Alors, un petit rappel, je sais qu'on vous a présenté les projets de DSM-5, mais en termes de DSM-4, le tabac, il se situe parmi les autres substances psychoactives définie par la dépendance qui est actuellement remise en question et le syndrome de sevrage à l'arrêt. Hein. Il n'y a pas d'abus ni d'intoxication. Contrairement à l'alcool, aux amphétamines, cannabis, cocaïne, hallucinogènes, benzodiazépines. Toutes ces drogues-là sont en général utilisées par ces polyconsommateurs. Alors, quelle stratégie à proposer à un patient qui est polytoxicomane? Les enseignements de la littérature, c'est que, ces patients traités par traitement de substitution, ils veulent arrêter de fumer, hein, ils sont capables de le faire, hein, mais leurs chances de succès sont plus faibles que celles des fumeurs de la population générale, ou même que les alcooliques. Nous, dans notre cohorte de 83, il n'y en a que deux qui ont réussi, avec un recul de 9 mois. Paradoxe, je vous l'ai pointé tout à l'heure, c'est que c'est des gens qui sont traités par des traitements de substitution opiacés depuis 15 ans et jamais, souvent, on leur a proposé un substitut nicotinique. Donc ça, c'est quand même un paradoxe qu'il faut pointer. Enfin, ce qui se fait ailleurs, une étude réalisée au Canada montre que dans 50% des centres où sont suivis ces patients, on leur parle de l'arrêt du tabac. Dans 10% de ces centres, on leur propose une thérapie de groupe. Et dans 1% des cas, on leur propose des substituts nicotiniques ou du bupropion. Aux États-Unis, c'est un tiers des centres qui proposent de ce type de traitement. En France, et je sais que ça va être une intervention tout à l'heure, maintenant les centres sont non-fumeurs, alors qu'il y a 15 ans, ils l'étaient pas et les salles d'attente étaient enfumées au possible. Les patients ne fument plus dans le centre, par contre ils fument dehors. Hein. Dans notre centre à Montreuil, mais c'est vrai aussi à la Liberté à Bagneux, je sais que c'est vrai à Bayonne, il y a des consultations tabaco et on a des substituts nicotiniques gratuits. Et ça c'est un facteur important pour engager ces patients dans un sevrage par ce moyen. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est par quoi commencer ? Est-ce que on commence par le tabac, les opiacés, la cocaïne, les benzodiazépines ou d'autres ? Il n'y a pas de réponse simple. Les études publiées engagent à laisser le choix au patient et à décider du moment opportun. Hein. Mais il n'y a pas de recommandations standards. Alors les méthodes de sevrage tabagique pour un patient tabacomane monodépendant, donc classiquement on évalue la consommation, on conseille le sevrage, on fait la balance entre les bénéfices et les risques, on se met d'accord sur une stratégie, on aide au sevrage, donc on a différents moyens à notre disposition, et ça les tabacologues un éventail d'aide au sevrage tabagique qui comporte les entretiens motivationnels, les thérapies cognitives et comportementales, la pharmacothérapie comme le bupropion ou la varenicline et les substituts nicotiniques. Hein. Alors, les posologies, dose et durée sont à évaluer en fonction des patients et on va voir un petit peu ce que donnent les données de la littérature. Donc ensuite, on organise le suivi et enfin, on essaye de prévenir les rechutes. Donc ça, c'est le schéma classique de la prise en charge d'un fumeur. Hein. Alors, les études qui ont été publiées, une qui est un petit peu ancienne, qui traitait les patients par des substituts nicotiniques standards pendant 3 mois versus substituts nicotiniques plus soutien psychothérapique. À 3 mois, on avait une abstinence de 12% sur un traitement standard, et quand on avait une aide avec un soutien psycho, c'était 25% d'abstinence. Il n'y avait pas de contrôle par le CO expiré, qui est un moyen d'évaluer si ce que dit le patient est vrai. À 6 mois, on voyait qu'on n'avait pas beaucoup de différence entre les deux stratégies. Une autre étude, publiée en 2006, avec 383 fumeurs, avec une évaluation de l'efficacité par la mesure du CO2 dans l'air expiré. Il y avait 2 groupes de patients, des patients qui fumaient 40 cigarettes ou plus par jour et ceux qui fumaient 20 cigarettes par jour ou moins. La stratégie thérapeutique par substitut nicotinique qui était gratuite, ça commençait par 4 premières semaines à 42 mg, donc c'est des grosses doses, 35 mg pendant 2 semaines. Et ensuite, une décroissance, 21, 14 et 16 mg sur 6 semaines. Ça, c'est pour les gros fumeurs. Pour ceux qui étaient un peu moins dépendants, on leur donnait 21 mg, 14 mg, 7 mg en décroissance sur 12 semaines. Donc, quand on faisait un point à 12 semaines en termes d'abstinence déclarée, dans le groupe de gros fumeurs, on avait 22% d'abstinence déclarée, mais en fait, en termes d'abstinence vérifiée sur le CO2 expiré, on avait que la moitié. Et on avait à peu près les mêmes chiffres sur les petits fumeurs, enfin les petits fumeurs, les moins fumeurs que les gros fumeurs. À 6 mois, l'abstinence déclarée avait chuté de moitié, hein, 12%, et en termes de CO2 expiré, on n'avait que 6%. Et pour les gros fumeurs, et pour ceux qui ne fumaient qu'un paquet par jour, on avait à peu près les mêmes résultats. Voilà. Troisième étude, 225 fumeurs, en moyenne d'âge 41 ans, avec pour la moitié, il y avait des complications liées au tabac et 64% avec des troubles psychologiques. Donc, traitement de 8 semaines avec donc, thérapie cognitive et comportementale, plus des substituts nicotiniques, timbres, donc 21 mg pendant 6 semaines, ce qui est une dose standard, et ensuite 14 mg pendant 2 semaines. En plus, comme ce qui se fait beaucoup aux États-Unis, il y avait une récompense qui était donné, donc d'abord le traitement était gratuit et ça c'est important et pour nos patients c'est fondamental. Ensuite on leur donnait à chaque semaine 10 $ et à la fin du traitement 20 $. Donc en termes de résultats, on avait une abstinence à 8 semaines de 11% et à 3 mois de 5% et qui était vérifié par le CO2 expiré. Donc c'est pas des résultats extraordinaires. Par contre, il y avait une diminution du nombre de cigarettes d'environ 50% sans modification du CO. Voilà. Donc en termes de résultats, les méthodes de sevrage validées pour la population générale des fumeurs semblent inefficaces pour obtenir l'abstinence du tabac chez ces patients polyaddicts. Elles entraînent parfois une réduction significative de la consommation tabagique durant le traitement, hein, mais de courte durée. Donc c'est quand même déjà un résultat important de montrer qu'ils sont capables d'arrêter de façon, enfin au moins ou diminuer de façon significative pendant un certain temps. Les patients traités par TSO qui arrêtent le tabac vivent-ils plus longtemps et en meilleure santé? C'est une question qu'on peut se poser. Et en fait, il y a très peu d'études qui ont abordé cette question. C'est quand même un peu compliqué à faire comme étude. Il y en a une quand même qui montre qu'il y a une amélioration significative de la qualité de vie qui est évaluable par des critères particuliers. La majorité de ces patients traités par TSO qui arrêtent de fumer à court terme ne rechutent pas dans d'autres abus de substances psychoactives, et ça c'est important parce que c'est une question qu'on pourrait se poser. Est-ce que le fait qu'ils fument plus vont faire qu'ils vont plus consommer de cannabis ou de cocaïne? Voilà les publications dont ces résultats sont sortis. Alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme recommandation? D'abord, c'est des interventions qui doivent être plus longues que les interventions pour des fumeurs, on va dire, standards. Bien sûr, évaluer la consommation, conseiller le sevrage. La stratégie est un petit peu la même. Néanmoins, en termes de substituts nicotiniques, et on a plutôt tendance à s'orienter vers ces traitements parce que la plupart de ces patients sont déjà traités par des traitements de substitution, et c'est intellectuellement, c'est quelque chose qui passe bien, et souvent ayant eu de relativement bons résultats avec les substituts opiacés, ils sont plus enclins à accepter des substituts nicotiniques. L'autre avantage, c'est que ces patients traités par méthadone dans des centres, ils sont entre guillemets captifs de la structure, puisqu'ils vont venir régulièrement au centre, et ça va permettre un suivi assez rapproché, en particulier avec les infirmières. Donc en général, il faut donner des doses plus importantes et des durées de traitement plus longues, hein. Alors, le suivi et la prévention de la rechute, ça s'organise de façon pluridisciplinaire avec donc les infirmières qui sont en première ligne, les psychologues, les éducateurs et les médecins. Donc, un suivi plus fréquent, je vous ai dit, c'est relativement plus simple chez des gens qui vont être dépendants d'un autre produit qu'on va les voir souvent. Et on essaye d'associer des combinaisons d'entretiens individuels, mais aussi des groupes de discussion qui peuvent être très intéressants pour l'émulation et la motivation en termes de renforcement. Alors, sujet fondamental, et je pense qu'il sera abordé également dans d'autres interventions, c'est la prise en charge des comorbidités psychiatriques, en particulier la dépression, qui doivent être dépistées et traitées pour éviter une majoration d'autres abus de substances et la survenue d'épisodes dépressifs majeurs. Voilà, donc je vous remercie. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition.
Merci Frédéric. On peut faire une ou deux questions tout de suite, et puis on enchaîne les exposés si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui ont des choses à poser. Moi j'en ai une, pardon Nathalie, j'avais pas vu, vas-y monsieur.
Moi j'avais une question, par rapport au traitement par substitut nicotinique. Vous m'avez dit que dans votre SAPA, vous avez le traitement gratuit. Comment vous faites? Parce que ça m'intéresse.
Alors en fait, c'est l'hôpital qui nous fournit, on dépend d'un hôpital.
Ah, c'est l'hôpital alors.
C'est l'hôpital qui nous fournit des substituts nicotiniques. Et pour l'instant, ça se passe bien, parce qu'on n'a pas de trop grosse consommation, mais si on met en place une étude, il va falloir qu'on augmente notre dotation en substituts nicotiniques.
D'accord, merci.
Moi j'avais une question sur les... Pardon, vas-y.
La consultation du tabac, comment c'est séparé de celle des traitements
de substitution? Alors, en fait, il y a parmi les médecins addictologues, il y en a 3 sur 5 qui font de la tabacologie, Et donc, ça c'est dans la même consultation. Hein. Ce n'est pas une consultation séparée. Ce sont les mêmes addictologues qui prennent en charge la dépendance aux opiacés, mais à la cocaïne et aussi au tabac.
Mélina,
oui, je pense que la prise en charge de ces patients, elle s'approche de celle des très gros dépendants à la nicotine, hein, des fumeurs qui sont que fumeurs mais qui sont très, très, très dépendants, ou ceux qui ont des comorbidités psychiatriques. C'est vrai que les comorbidités psychiatriques dans la population de polytoxicomanes sont assez fréquentes. Hein.
Madame ?
Il marche pas le micro, mais... on vous entend, mais sans micro, donc c'est pas grave. Oui, on a les mêmes expériences et c'est très satisfaisant pour eux de voir qu'ils sont capables de réduire. Donc ça renforce leur désir d'aller plus loin. Et on a exactement les mêmes impressions. En fait, le fait qu'ils aient déjà réussi à pu prendre des ruines en prenant des opiacés les engage à faire de la substitution nicotinique. Ça, le parallèle est assez tentant et c'est vrai que ça les engage à se lancer dedans, plus que les traitements pharmacologiques. Alors là, on n'a pas encore posé la question. Donc pour l'instant, je crois que la pharmacie de l'hôpital a dû avoir des bons prix avec les substituts nicotiniques et pour les autres médicaments. Voilà. Je vous avais mis une bibliographie, mais je pense qu'elle sera sur le site du THS. Vous pourrez consulter tout ça. Oui.
Je trouve ça très intéressant d'arriver à la réduction de risque avec 5-6 grammes par jour, avec Comment les gens font pour se payer 4 pages par jour? C'est totalement impossible.
Oui.
C'est... Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose à faire au niveau de la prise en charge et de la solution de l'étude, qui est vraiment lamentable.
Tout à fait. Je pense que la société de tabacologie est sensibilisée à ce problème. Ça, c'est clair que nous, tant qu'on peut leur donner... Oui, alors, à l'instigation de Gilbert Lagrue, on a commencé un essai où on propose des patchs à tout le monde et qu'ils soient enclins ou pas à arrêter de fumer, on leur donne le patch. On leur met le patch. Prendre leur méthadone, on leur met le patch. Et on est en train d'évaluer la réduction du nombre de cigarettes qu'ils ont par jour. Et rien que ça, c'est incitatif pour eux à s'engager dans un traitement. Mais c'est vrai que la question du coût du traitement, elle est fondamentale.
Est-ce qu'il y a des études à moyen terme ou long terme sur justement l'intérêt réel du don, entre guillemets, de patch, enfin le fait qu'on leur donne gratuitement via la pharmacie d'hôpital? Est-ce qu'il y a eu des évaluations ou sur les taux de rechute à 3 mois, à 6 mois, comme vous avez pu montrer dans d'autres contextes? Est-ce que ça a été validé ou est-ce que c'est juste du ressenti?
En fait, c'est très simple, c'est que si on ne leur donne pas, ils ne le prennent pas. Quoi. Donc, Alors à long terme, je ne sais pas, les études là, qui ont été publiées, c'est à 6 mois et après, c'est pas prolongé, quoi. Mais dans les études qui ont été faites aux États-Unis, le substitut était gratuit.
J'avais juste peut-être une remarque par rapport au traitement. Il faut garder à l'esprit quand même que ces patients-là sont souvent dépendants, très dépendants, et consomment du tabac peu cher. Ils se rabattent un peu sur du tabac à rouler, donc qui leur revient pas trop cher, et qui nécessitent donc un traitement souvent important en nicotine, qui leur coûte plus cher que leur consommation de tabac. Et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème.
Qui bénéficiaient de substitution nicotinique, si c'était gratuit, prix coûtant ou prix fort, il y avait quand même de meilleurs résultats quand c'était gratuit. Sur les résultats, je ne sais pas, M. Touzeau, mais il me semble avoir entendu ça, mais je ne veux pas le confirmer, s'il y a quelqu'un qui peut le confirmer.
En termes d'adhésion, c'est-à-dire il reste plus longtemps sous traitement. Évidemment, il y a des études, beaucoup, beaucoup dans d'autres pays, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Ce n'est pas cette population, c'est une population de fumeurs chez le généraliste, en gros. Mais il est clair que si c'est remboursé ou gratuit, donc il y a une autre façon de procéder qu'on fait en France, les gens utilisent plus longtemps et donc évidemment, il y a plus d'abstinence. Donc on gagne, il y a eu même des calculs de combien de vies on peut sauver, combien on peut transformer en vie sauvée ou espérance de vie prolongée en subventionnant, c'est-à-dire en remboursant, en subventionnant les traitements. C'est évident que le rapport coût-efficacité est faramineux, c'est-à-dire une année de vie sauver, ça coûte quelque chose comme 2000 euros maximum, contrairement à l'hypertension où ça coûte, je crois, quelque chose comme 80 000. Et pour les cholestérol, hypocholestérolémie, 80 000. Col de fémur, fracture de col de fémur, c'est encore plus. Donc c'est l'intervention la plus coût-efficace de toute intervention possible pour prolonger la vie et la qualité, améliorer la qualité de vie. C'est évident. C'est là-dessus, il n'y a pas de doute.
Oui, il y a d'autres interventions? Non? C'est tout un sujet, parce que c'est vrai que derrière ces très gros fumeurs sous traitement de substitution, on pourrait qu'on rediscute aussi l'adaptation posologique du traitement de substitution, c'est-à-dire de la méthadone ou de la buprénorphine, ce qui peut se discuter. Et puis, troisièmement, il y aura un sujet aussi à traiter l'année prochaine, c'est les problèmes de fibrose hépatique chez nos patients hépatite C, et je pense que ce sera un sujet qu'on essaiera d'aborder, parce que le tabac participe de cette fibrose. Donc ce serait probablement un motif supplémentaire. Donc peut-être l'année prochaine, on reviendra sur cette question.